Bienvenue dans La Voix au chapitre, le podcast médiéval et littéraire animé par Mariella Vesco et Anaïs Guiraud. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode.
Bonsoir Mariella.
Comment ça va ce soir?
Ça va bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode.
Oh ben moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Puis alors aujourd'hui, on va aborder un sujet super intéressant. On va parler de personnages, d'un ordre qui est quand même assez emblématique du Moyen-Âge, qui est assez incontournable. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, qui a nourri l'imaginaire collectif. Hein. Il y a eu beaucoup de clichés qui ont été véhiculés, puis plein de légendes autour de ces messieurs. Hein. On va parler des Templiers, en fait. Voilà, les chevaliers de l'ordre du Temple, qui sont assez fascinants, intrigants, voilà. Et on se disait quand même qu'on pouvait pas passer dans notre podcast sur le Moyen-Âge à côté de ces incroyables personnages. Et puis ben voilà, remettre un petit peu, reparler de leur début, de leur formation, de leur création, le pourquoi du comment ils sont arrivés. Mais c'est un sujet tellement, enfin assez vaste. Du coup, on s'est dit qu'on allait
très vaste, ouais.
Voilà, en deux épisodes. Donc aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur leur création, pourquoi est-ce que cet ordre a vu le jour et leurs différentes missions. Et puis, on consacrera un prochain épisode à leur fin tragique, voilà, et l'histoire justement de la fin de cet ordre-là. Voilà, et bien écoute, du coup, on va attaquer sur la création.
Sur les origines, ouais.
Les origines,
ouais.
Ordre.
Effectivement, donc de leur vrai nom, la confrérie des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, très ouais. Souvent appelée donc les Templiers ou l'Ordre du Temple, voire les pauvres du Christ, hein, tout simplement. Vraiment, c'est, tu l'as extrêmement dit, pour moi, les Templiers, c'est le fantasme absolu de la chevalerie médiévale.
C'est ça.
C'est le super chevalier, quoi, le chevalier absolu, qui est droit, qui est honorable, qui est à la fois un moine et un soldat d'élite.
C'est ça qui est fascinant.
Ouais, on va en parler d'ailleurs, c'est vraiment ça qui fonde l'idée de l'ordre, hein, qui est en même temps un ordre d'une fraternité qui est indéfectible. Hein, les frères du temple entre eux sont vraiment, vraiment dans cette fraternité, dans cette union commune pour un but commun qui est la défense de la Terre Sainte. Et puis, il y a vraiment tout le décorum qui va avec, les constructions, les forteresses, l'habit blanc à la croix écarlate, le beau séant noir et blanc qui flotte voilà, sur la chevalerie du Temple qui est une des meilleures cavaleries du monde. Leur devise tirée des versets du livre des psaumes, hein, des psaumes, oui, c'est ça, non nobis domine, non sed nomine, tour da gloriam, merci pour mon latin, que je n'ai pas exercé depuis longtemps, vous me pardonnerez. Mais voilà, il y a vraiment tout un décorum de l'ordre du Temple qui fait que, comme tu l'as dit, on ne peut pas parler du Moyen-Âge et pas parler des Templiers.
Puis c'est tellement romanesque, c'est tellement épique, en fait, vu avec nos yeux de contemporains, qu'on se dit, en fait, c'est incroyable que ce type d'ordre ait vu le jour. Hein. C'est vrai que des moines soldats, on se dit, mais c'est quand même assez extraordinaire. Et voilà. Pourquoi,
C'est extraordinaire, et c'est extraordinaire autant maintenant qu'à l'époque.
L'époque,
c'est ça qui est fascinant.
Ils ont dû se faire légitimer. Enfin, c'est vrai que ça n'a pas été si évident quand même.
Non. Loin de là, on va le voir. Et je pense qu'il faut juste replacer un petit peu en deux mots le contexte historique, peut-être vite fait, hein, de la création de l'ordre du Temple. Donc, on est vraiment suite. Oui, c'est ça. Et on est vraiment suite au refus. On est même un petit peu avant, puisqu'en 1078, les Turcs Seldjoukides, qui ont repris Jérusalem, sont censés laisser un franc passage aux pèlerins qui viennent d'Occident pour visiter les lieux saints, puisque Jérusalem, c'est vraiment. ça, l'important, c'est les lieux saints. Donc, il y a le tombeau du Christ, il y a le Dôme du Rocher qui est aujourd'hui, etc. Ça reste, et aussi pour les Juifs et pour les musulmans, c'est un lieu de culte très, très important. Mmh. Et donc, ils décident d'un coup, à cette époque-là, de rompre donc, le pacte d'Oumar, hein, ce pacte qui permettait aux pèlerins de passer en toute sécurité pour aller se recueillir sur les lieux saints. Et ils interdisent l'accès de Jérusalem aux chrétiens. Donc là, c'est vraiment un gros problème.
Mais oui.
L'Empire byzantin essaye un peu de se battre contre les Seljoukides, mais ils se font défoncer à la bataille de Manzikert. Et donc, bon, en Occident, c'est pas trop, ça les intéresse pas trop quand même, hein, cette question-là. Ils estiment pas que c'est forcément une question qui les seigneurs terriens, notamment francs et anglais, estiment pas vraiment que c'est leur problème quand même. Hein, jusqu'à ce que le pape, hein, se disent, donc c'est Urbain II à l'époque, va dire, bon, quand même, on ne peut pas laisser Jérusalem comme ça, c'est pas possible, les pèlerins, il faut qu'ils y aillent. D'abord, c'est une manne financière, et ensuite, pour la chrétienté, c'est vraiment essentiel, donc on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et donc, il va prêcher la toute première croisade en 1095 à Clermont, et il va dire, voilà, si vous vous rendez tous à la croisade pour libérer Jérusalem, déjà, vous serez absous. Vous aurez une indulgence plénière, donc tous vos péchés seront absous. Et puis vraiment, c'est la volonté du Christ, c'est Deus vult, Dieu le veut, voilà, donc il faut y aller, on n'a pas le choix, il faut libérer Jérusalem. Donc, la croisade remporte un gros succès, hein, bizarrement. Bon, les gens sont quand même…
ils ont réussi à rallier pas mal croisade. De… C'est clair.
Alors, autant des nobles que surtout le peuple, hein, avec la fameuse croisade des pauvres de Pierre l'Ermite. Mmh. Et ils vont comme ça, par les routes de cette première croisade, jusqu'en premier à Constantinople. D'ailleurs, j'avais lu, je conseille de lire vraiment les mémoires d'Anne Comnène, la fille de l'empereur Alexis Comnène, et notamment sur ce qu'elle dit quand elle voit arriver ces cohortes de gens là. Dépenaillée, elle dit voilà, les femmes et les enfants ont délaissé leur pays, les femmes avaient leurs enfants contre leur sein, ils partaient comme ça sur les routes. Enfin, pour elle, c'est.
Ça paraît fou, quoi.
Incroyable, ça paraît fou. Pour elle, les Celtes, elle les appelle les Celtes, sont en plus des barbares par rapport à la beauté et la culture.
Le raffinement, de l'Empire byzantin, le raffinement,
tout à fait. Exactement. Donc, il y a vraiment aussi ce choc un peu de culture entre les deux, mais bon. C'est un franc succès. Ils partent pour prendre Jérusalem et en 1099, c'est fait. Les croisés entrent dans la ville, ils massacrent tout le monde. Hein, c'est quand même extrêmement sanglant. Et c'est la naissance des États latins d'Orient.
Voilà, donc ça, c'est hyper
États
important.
Qu'on a récupéré. C'est vraiment la base.
De la base, oui, c'est ça.
Voilà.
Et c'est dans le contexte de la croisade que justement, est né le besoin aussi. Puis. Justement, donc la Terre Sainte a été récupérée, les pèlerins peuvent à nouveau aussi faire des pèlerinages et tout ça, mais les routes ne sont pas très, 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 très. Voilà, circuler en Terre Sainte et faire le voyage là-bas, c'est quand même pas.
non, les routes ne sont pas du tout sûres. Et Jérusalem, comme Saint-Jean d'Acre et comme Haïfa, ont beau être sous joug franc. Hein, il y a plusieurs donc, États latins qui appartiennent aux Francs et aux Celtes, comme disait Anne Comnène, mais c'est surtout des Francs, donc des Français d'origine. Comme tu dis, les routes ne sont pas du tout sûres. Et notamment ce défilé entre Haïfa et la péninsule d'Atlite, qui est une espèce d'avancée comme ça dans la mer, qui passe sous les monts du Tabor et puis derrière les monts du... comment c'est les grandes montagnes là, qu'il y a derrière Jérusalem, j'ai perdu le nom, ça fait un espèce de défilé comme ça dans la montagne et c'est vraiment très dangereux. Enfin, là,
c'est un coupe-gorge,
des brigands. Voilà, c'est un coupe-gorge, exactement. Donc, entre 1118 et 1120, on n'est pas très sûr de la date, les chanoines du Saint-Sépulcre et donc le patriarche de Jérusalem qui s'appelle Gormond de Piquigny sont vraiment désespérés parce que les pèlerins... un, ont peur, et deux, le peu qui arrive à Jérusalem, c'est pas suffisant pour faire du business. Hein, on va être aussi clair, c'est quand même aussi une question économique. Ils sont vraiment...
un peu désemparés, quoi.
Désemparés. Ils ont pas de troupes à eux. Hein, ils ont, les gens qui sont venus avec la première croisade, la plupart, ils sont repartis en France ou en Europe. Ils sont pas restés. Et le peu qui est resté, ils sont déjà en train un petit peu entre eux de se chicaner pour savoir qui aura quel bout. Et puis, de l'autre côté, ils sont pas très nombreux. Donc,
Oui,
ça
c'est ça.
commence
Il
à
n'y a pas
être
de quoi
compliqué.
faire enfin, des troupes quoi qui pourraient
Voilà,
vraiment.
une vraie troupe.
Donc
Donc,
c'est là qu'est
c'est
né
là.
justement ce besoin en fait de protéger
Exactement.
la Terre
Et
Sainte
oui, la Terre Sainte et ses routes.
et ses
Et les
routes,
lieux
voilà.
saints. Les lieux saints surtout d'abord. Et donc, le premier objectif, c'est donc ce fameux Gormand de Picquigny, patriarche de Jérusalem, et Baudouin II, vont confier à un chevalier, alors qui est champenois, selon certaines sources, qui est ardéchois, selon d'autres sources. Donc là aussi, il y a un petit souci, Hugues de Pin, on ne sait pas
Oui, c'est
bien d'où il
ça.
vient. Voilà, il
Voilà.
apparaît un peu comme ça.
C'est le.
Et pourquoi? Alors là, voilà, personne n'est capable de le dire à date. Ils vont décider de lui confier à lui et à son meilleur ami, qui est Geoffroy de Saint-Omer, la milice, la nouvelle milice du Christ, qui est censée à la base protéger uniquement le Saint-Sépulcre.
D'accord. Oui,
Et
c'est ça.
donc, lui, avec neuf autres chevaliers, qui sont donc André de Montbard, Païen de Montdidier, Geoffroy Bizol, Roland, Archambault de Saint-Amand, Arnaldo et Gondemar, donc plus Hugues de Pin et Geoffroy de Saint-Omer, ces neuf-là vont créer cette fameuse milice du
En fait, c'est
Saint-Sépulcre.
les premiers, quoi, c'est les
C'est les
fondateurs,
tout premiers. Voilà.
les premiers Templiers, qui à l'époque s'appelaient pas encore tout à fait les Templiers, hein. C'était
Non,
une
non.
milice, quoi. C'était une milice,
C'était la
un
milice du
ordre,
Saint-Sépulcre, ouais.
et c'était pas
Les...
forcément un ordre religieux.
Non, non. Alors, les neuf chevaliers prêtent quand même serment aux chanoines du Saint-Sépulcre et à Gormand de Picquigny et ils font trois vœux,
Oui, c'est ça.
qui sont les vœux essentiels de la règle de Saint-Augustin
Voilà.
que suivaient
Pauvreté.
les chanoines du Saint-Sépulcre. Pauvreté, chasteté
Chasteté
et
et
obéissance.
obéissance.
Voilà. C'est la base, en fait. Et c'est ces neuf-là qui vont créer effectivement cette première milice qui sera à l'origine du futur ordre du Temple. Alors c'est vrai que on comprend déjà que de base, là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement romanesque, ou en tout cas d'étrange, à dire neuf cons, même des très bons chevaliers, vont défendre une terre comme la Terre Sainte. Enfin, c'est immense. Et on se dit, comment cette idée a pu germer? Qu'ils
Oui,
aient
c'est
besoin
ça.
de troupes, on le comprend.
Oui.
Les chroniques sont assez d'accord pour dire que c'est Hugues de Pin lui-même
Mmh.
qui va venir se proposer en fait avec
Mmh.
ses amis. Donc on se dit, bon, c'est quand même étrange. Enfin, il
Oui,
y a
c'est
vraiment
fou.
un truc un peu spécial. Bon,
Ben, ça
voilà,
peut
il se
être quelque
propose.
chose de divin, hein. On va savoir, il a peut-être eu un appel. Hein. On ne sait pas trop. Hein.
C'est possible et c'est tout à fait peut-être envisageable. Il y a quand même un certain temps en plus qui s'écoule entre son arrivée en Terre Sainte avec la première croisade et cette idée de fonder cet ordre. Hein. On est entre, voilà, on va dire 1099, la prise de Jérusalem, et voilà, 1120, la création de cette première milice à peu près, hein, 118,
Oui, c'est ça,
1120,
c'est pas
on n'est pas
oui.
très très sûr. Donc, il y a quand même un certain laps de temps qui s'écoule et on se dit, les problèmes de protection des pèlerins, ils ont dû se faire jour dès
Oui, c'est
l'origine, en
ça,
fait. Donc,
c'était pas
pourquoi ça
tout
reprend à
nouveau.
ce moment-là? On ne sait pas. Voilà. Donc, il y a
Oui,
ces neuf
c'est ça.
chevaliers
Il y a
qui
quand même
sont
ce mystère.
le... Ouais, c'est déjà un petit peu fou, c'est déjà un petit peu mystérieux, c'est déjà presque mystique. Et donc, il y a cette première formation de la milice du Christ qui existe maintenant. Et alors, ils sont tous d'accord pour dire quand même que 9, ce n'est pas suffisant. Et vers 1127, Baudouin, donc roi de Jérusalem et Gormand de Picquigny, donne des lettres à Hugues de Pin pour qu'il retourne en Occident. Pour faire quoi? Recruter des gens. Et surtout, donc tu l'as dit, il n'y a pas encore de règles. Eh bien, le but, ça va être non seulement de recruter, mais également de créer une
D'organiser, ouais,
véritable règle et d'organiser un futur ordre
de
qui va devenir
structurer tout
l'ordre
ça,
du
quoi.
Temple.
Ben oui, c'est ça.
Exactement. Tout à
Et
fait.
du coup, oui, c'est ce que j'avais noté moi aussi dans mes petites notes, que c'était Baudouin II, là, qui était quand même à l'origine de ça. Enfin, pas de comment dire, qui avait envie justement que ça structure. Moi, j'avais noté effectivement une petite citation, que leur mission principale, c'était de garder voies et chemins contre les brigands pour le salut des pèlerins. C'était quand même à l'origine, voilà, ça montrait bien quand même le niveau d'insécurité. De tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'une fois que c'était créé, il fallait quand même aussi un soutien J'imagine un soutien financier aussi, et puis que les choses se pérennisent, quoi. Donc, en fait, ils sont allés chercher du soutien
Ils sont
en
allés
Occident.
chercher du soutien en France, en
Oui,
fait.
c'est
Ils
ça,
sont
ils sont
rentrés
rentrés, du coup.
chez eux, tout
Voilà.
simplement. Alors, Hugues de Pin, il a une famille, il a un oncle notamment qui est très puissant, qui a voilà, des relations, qui est un seigneur terrien important du côté de Troyes. Et donc, il va rentrer en France et ils vont chercher à vraiment recruter des gens, en fait, des chevaliers comme eux. Il faut savoir que la chevalerie française en Terre Sainte, elle a extrêmement bonne réputation. Les Seldjoukides notamment et leurs armées ont très peur hein, des chevaliers francs parce qu'ils estiment que c'est une cavalerie qui est lourde, donc qui fait beaucoup de dégâts quand il y a des batailles et surtout ils s'admirent mutuellement. D'ailleurs, ça va venir après un petit peu plus tard poser problème, mais les Seldjoukides reconnaissent la puissance hein, de l'armée française. Donc, on va recruter des francs et pour se légitimer un petit peu, comme on est quand même dans un ordre où effectivement il y a ce côté un peu religieux dès le départ, hein. Il y a ces vœux prêtés au Saint-Sépulcre, on va pour la défense des pèlerins et des lieux saints, donc on n'est pas une armée rattachée à un roi en fait, hein, ou un seigneur, c'est
Oui,
quand
c'est
même
vrai
quelque
que c'est
chose de
une
vraiment
armée un peu
différent.
indépendante.
Exactement.
Et c'est ça aussi qui posera certainement problème à un
Qui va
moment
poser problème.
donné. Oui, c'est que
Ça,
du
beaucoup
coup,
plus tard.
mais il fallait pour quand même qu'il se fasse reconnaître par l'Église quand même
Voilà.
et légitimer aussi les actions de cette milice-là. Et c'était aussi une des missions justement quand ils sont rentrés en France, parce qu'il y a quand même un gros paradoxe quand même. Enfin, je pense d'être à la fois moine et soldat par rapport à la règle de l'Église, c'est quand même en contradiction en fait d'être à la fois un moine et un guerrier, quoi, parce que c'est ça qu'il faut pas oublier.
C'est un problème pour l'époque. Il faut toujours se replacer dans le contexte de l'époque, dans une société qui est régie par la religion. C'est, tu l'as dit, un problème très complexe. D'abord, ce sont des laïcs, et ensuite, ce sont d'abord des soldats. Donc, des gens qui ont tué et qui tueront. Et on a un principe général qui est un des commandements, des 10 commandements,
Tu ne tueras
tu ne
point.
tueras point. Donc, ça, c'est quand même un problème théologique extrêmement violent pour l'époque, c'est presque inconciliable de penser créer une milice de gens qui soient à la fois des religieux et à la fois des soldats. Ça semble impossible. Et il y a un personnage qui va
Ah bah
intervenir,
voilà, c'est
qui est
là
un grand personnage, qui est un des plus grands théologiens de son temps,
que
c'est
Bernard
Bernard
de
de
Clairvaux
Clairvaux, voilà, le
fait son
fondateur de
entrée.
l'ordre de Cîteaux, qui va
Bah
prendre
oui,
fait et cause
là il va plaider,
pour
voilà,
cette milice et qui
il
va
va
vraiment
plaider pour eux.
plaider en ce sens-là, dans une lettre qu'il écrit personnellement à Hugues de Pin, qui est des Laudae Nova Militiae, donc de l'éloge de cette nouvelle
Oui, c'est
milice,
ça. C'est une éloge,
où
quoi, un éloge.
il dit vraiment les qualités premières de cet ordre, c'est de réunir en un seul homme eh bien, le véritable soldat du Christ, à la fois un homme de foi et un spirituel et un homme de combat matériel, donc de réunir en une seule et même personne ces deux principes qui semblent inconciliables. Dans un passage d'ailleurs, Bernard de Clairvaux justifie vraiment hein, le fait qu'ils peuvent tuer au nom de la foi, et c'est une des premières mentions de cette un petit peu de la guerre juste. Alors
Oui,
lui, il
c'est
appelle
ça
la
le
guerre juste,
concept de guerre
on dirait la
juste,
guerre
effectivement.
sainte. Voilà, c'est vraiment, je vais carrément citer Bernard de Clairvaux, le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide mais malicide, et la mort qu'il donne est au profit de Jésus-Christ et celle qui reçoit le sien propre. Voilà, donc quand tu tues au nom du Christ, des personnes qui sont donc le mal, donc des incroyants ou des infidèles, attention, pas des chrétiens surtout, eh bien c'est justifié, la guerre est juste, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est quand même un petit tour de passe-passe théologique,
Quand on
faut
y
bien le
pense,
dire.
c'est voilà, on joue un peu avec les mots, quoi, quand même, hein.
Bernard de Clairvaux joue beaucoup avec les mots,
C'est
mais
un
il a
sacré
cette
orateur,
aura.
quoi.
Voilà, il a cette légitimité aussi en tant qu'abbétito. Hein, l'abbétito, c'est une des plus grosses abbayes du monde chrétien. Il y a quelques théologiens qui vont s'élever contre ça, mais alors il n'y en aura clairement pas beaucoup, et j'ai d'ailleurs pas retenu leur nom. Mais vraiment, de manière générale, tout le monde va être OK. Et puis aussi, je pense, même si ce n'est pas dit ni dans les chroniques, ni dans ce qu'écrit Bernard de Clairvaux, je pense que ça a arrangé beaucoup de monde, en fait.
Ben, c'est ça,
De
finalement.
se dire, ben, nous, du coup, on s'en dégage totalement. En tant que seigneur, on s'occupe de notre propre problème déjà en Occident. On n'a pas à aller s'occuper de ce qui se passe là-bas à des milliers de kilomètres. Ça, je pense que vraiment, ça a arrangé les gens en fait de se dire oui, bah, très bien, faisons ça, c'est
Faites
parfait,
votre
quoi. Il y a des
milice et
gens
puis oui.
pour, puis il y a des gens pour être volontaires pour le faire, profitons-en, quoi,
Non
parce
mais c'est ça, c'est
que ça
parce
va
que
peut-être
du
pas
coup,
durer.
après l'intervention de Bernard de Clairvaux, justement, ça a recruté quoi. Ça a
Ça a
recruté et bien.
recruté très
Du
très bien.
coup, ça a eu du
L'ordre va
succès.
connaître un grand
L'ordre, ouais,
succès.
c'est ça.
Ouais. Et surtout, ils vont Bernard de Clairvaux va doter l'ordre d'une règle quasiment monastique. Alors après, l'ordre sera plus tard divisé en plusieurs castes. Hein, donc il y a vraiment quand même une catégorie de prieurs qui ne font que prier dans les maisons. Il y a les frères un petit peu qui sont plus qui s'occupent de l'intendance de la maison. Puis il y a les
Oui.
frères guerriers. Voilà, on va arriver quand même à une certaine division des tâches au fil du temps qui va faire qu'il y aura quand même des personnes qui feront vraiment que prier et d'autres qui feront vraiment que se battre. Donc un petit peu sauvegarder l'apparence, mais enfin vraiment la règle latine, la première règle du temple rédigée par Bernard de Clairvaux, c'est vraiment comme une règle d'un monastère, comme la règle de son propre ordre. C'est d'ailleurs inspiré de la règle de Saint Benoît. Et vraiment, les bases, c'est ça, c'est entendre tous les offices. Et quand on est à l'extérieur, on n'est pas dispensé. Donc, même si on est en mission pour le compte de l'ordre, on doit faire 13 prières. Puisqu'on ne peut pas aller à tous les offices, et notamment surtout pour les laudes et les matines, hein, qu'on ne peut absolument pas sauter.
Loupé quoi, ben oui.
Voilà, c'est jamais, hein, aucun prétexte, enfin, on n'est jamais dispensé de la prière, c'est impossible de le penser. On mange ensemble et en silence, de préférence, et d'ailleurs, ça va avec le fait général de garder sa bouche, donc de ne pas non plus proférer de mensonges ou de ne pas calomnier les gens ou de ne pas insulter. Donc on garde une espèce de maîtrise de son langage. On peut manger de la viande. Alors la viande est autorisée dans la règle du temple parce que ce sont des combattants.
Ben, c'est
Donc
des
il est
guerriers.
reconnu, voilà,
Et
qu'on
même, je
puisse
pense
manger
que
de la
les
viande.
règles du jeûne sont un peu assouplies par rapport à...
Alors, pas tant que ça. On respecte les carêmes et les jours de jeûne, mais quand le jour de viande, donc à droite, 3 jours de viande par semaine, quand un jour de viande tombe, un jour de carême ou un jour de jeûne, on reporte.
Oui, c'est ça, d'accord.
Voilà, c'est là, l'assouplissement, il est là. On ne se prive pas. On respecte, mais ben, ça tombe le jour suivant, du coup.
Oui, c'est
Voilà,
ça.
petite
C'est que
astuce.
parce que c'est quand même des guerriers, il faut pas, voilà.
Voilà. Ils ont le droit de manger de la viande. La chasse est interdite, en revanche. Ils doivent faire vie commune. Donc, bah, ça, c'est commun à tous les ordres monastiques du Moyen Âge. On vit tous ensemble. On vit dans des maisons. Donc, l'ordre du temple n'aura pas des monastères, mais il aura des maisons, des commanderies. Et les frères doivent vivre en commun. C'est comme ça. Et bien entendu, bah, la chasteté. Voilà, on est chaste. C'est pour ça qu'on en avait parlé dans notre épisode
Oui, ça fait
sur les
partie des
clichés.
clichés qui peuvent circuler,
Voilà
je
le templier beau gosse qui va rompre son vœu de chasteté. Non, c'est comme les moines, hein. S'ils ne sont pas chastes, ils sortent tout simplement de l'ordre, hein. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, eh ben, la règle, comme toutes les règles de monastère, réglemente ben, la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de se comporter, les jours, les heures. Voilà, c'est vraiment fait comme une règle d'un monastère.
Oui, c'est ça. Et donc, qui peut être recruté chez les Templiers? Ce sont du coup des laïcs qui peuvent être du coup d'extraction noble, mais il me semble qu'il y avait aussi des paysans qui pouvaient, des paysans libres, quoi.
Tout à fait.
Donc, pas des serfs, quoi, qui n'étaient pas du coup, mais qui pouvaient rentrer à l'ordre. En fait, il n'y avait pas. C'était quand même un ordre assez ouvert, en tout cas. Voilà, tout homme, du
Tout à
coup,
fait.
de plus de
Alors, il n'y
18
a
ans.
pas de... Voilà, il faut être âgé de plus de 18 ans. Il ne faut pas être fiancé. Il ne faut pas être engagé avec une femme.
Oui, ça
Il ne faut pas
paraît.
faire partie d'un autre ordre ou avoir fait partie d'un autre ordre. Il faut consacrer sa vie uniquement au temple. Il ne faut pas avoir de dette non plus. La condition, c'était juste d'être un homme libre. Donc, effectivement, tu l'as dit, pas de serf, mais
voilà, pas de
un
servage.
Paysan libre, un commerçant. Voilà, d'une cité qui d'un coup se découvre une vocation, il peut rentrer dans l'ordre dans la mesure où il respecte les autres préceptes et où il adhère à la règle du temple. Donc,
C'est
je
ça.
pense aussi que c'est cette façon d'être très inclusif, on dirait aujourd'hui, qui a fait le succès de
Qui a fait
l'ordre et
son
qui a fait
succès.
que, voilà, il y a eu un recrutement qui a été important et du coup une expansion de l'ordre qui va être vraiment fulgurante. Cette légitimité donnée par Bernard de Clairvaux, elle est telle que en 1139, il passe directement sous l'autorité du pape. Ça, c'est très important pour la suite. Les Templiers, ils ne sont assujettis à aucun suzerain.
Oui,
Ils
c'est
ne
ça.
dépendent d'aucun
C'est
roi,
ça.
d'aucun seigneur, d'aucun souverain.
Non, mais
Uniquement du pape.
c'est aussi. C'est ce qui est intéressant, mais c'est ce qui aussi rend les choses complexes, quoi. Enfin, je veux dire, après, politiquement, voilà, quoi. C'est que.
Ça va le devenir
Ben
parce
oui.
qu'ils deviennent
Puissant.
extrêmement puissants.
Oui, c'est ça.
Et
C'est
ça
que.
va devenir un souci dans la mesure où, échappant à la suzeraineté des territoires, des seigneurs des terres sur lesquels ils s'implantent, par donc cette bulle papale de Omne Datum Optimum, ça va poser des problèmes. Les seigneurs terriens, ils ont à cœur de garder leur fief, de
Ben oui,
conserver
c'est
leur
ça.
terre. C'est leur principal souci. Dans la mesure où il y a un ordre qui vient s'installer parce que par un laisse ou par un don, ils ont reçu telle et telle terre,
Ouais, c'est pas
ça
très
crée un
très bien
problème.
vu.
C'est pas bien vu, puis surtout, c'est une privation de revenus. Parce que le seigneur sur cette terre-là, il lève des impôts
Mais oui,
qui
c'est ça.
vont aller dans la poche des Templiers. Et ça va être un gros problème. Donc, en Orient, c'est vraiment une expansion fulgurante et surtout, on va le voir parce qu'ils construisent. Ils construisent
Oui, c'est ça.
énormément.
Il y a
Ils
énormément
construisent
de fortifications,
des fortifications, des forteresses. Donc, on a une des principales, c'est Château Pèlerin sur donc, cette fameuse presqu'île à Attlit, dont je parle dans les Mirages de Terre Sainte d'ailleurs. C'est vraiment un point stratégique parce qu'elle est placée en entrée de cette péninsule. Donc, elle ferme totalement l'isthme. Et derrière, on peut plus rentrer dans les terres qui ensuite vont vers Jérusalem. Donc, bon, aujourd'hui, c'est des ruines, mais c'est impressionnant, même en ruine, d'avoir. Donc, j'imagine ce que ça devait être à l'époque. Il y a le crac des chevaliers, il y a la forteresse de Saint-Jean-d'Acre, on voit encore aujourd'hui les remparts, etc. Enfin, voilà, c'est des constructions incroyables, magnifiques. Et on compte jusqu'à 9000 commanderies, donc maisons du temple, en Europe.
Ah ouais. Donc
Dont
ça,
plus
c'est
de
qu'il faut bien
1700 en
comprendre, c'est
France.
que ils sont un peu partout en Europe en fait, hein. Il y en a
C'est ça.
en
Il y en a
Espagne, au
partout.
Portugal, en Allemagne, il y en a
En
partout.
Angleterre,
Oui, c'est
en
ça.
Écosse, en Irlande, en Brabant, en Allemagne, en Suisse, il y en a en Provence, les Marquises, il y en a partout,
Il y en a
partout
partout.
en Europe. 9000 commanderies au plus haut de l'ordre, c'est énorme.
Ce
1700
qui
rien qu'en France, presque
fait
2000.
en fait un réseau aussi, c'est ça aussi la force du Templier et qui est aussi problématique, à mon avis, politiquement parlant, c'est que c'est un sacré réseau, quoi. C'est un sacré réseau.
C'est un sacré réseau. Et effectivement, dans la mesure où ils vont recevoir tous ces dons, voilà, il y a des gens, des seigneurs qui vont être vieux, qui ont des héritiers ou pas, et qui vont dire, ben, moi, je donne cette partie qui devait revenir à mon fils cadet. Ben, en fait, au lieu d'aller à mon fils cadet, je vais donner au temple. Cette maison, ce troupeau, je donne au temple. Mon moulin à huile, mon moulin à farine, je donne au temple. À ma mort, ça va au temple. Et le temple, comme ça, tac, tac, grignote des terres, construit des maisons, obtient de l'argent.
Oui, c'est ça, ça va devenir des grands
Voilà.
propriétaires terriens, en
Des
fait, hein,
gros propriétaires terriens, des gros exploitants agricoles, et surtout, ils vont avoir beaucoup d'argent en monnaie. Et là, va se créer ce fameux système de dire, comme tu disais avec le réseau, qui est entre l'Orient et l'Occident, de dire, bah, moi, seigneur de je ne sais pas où en Provence, je dois faire un pèlerinage parce que bon, bah, j'ai fauté, voilà. Bon, bah, ma sentence, c'est qu'il faut que j'aille en Terre Sainte faire un pèlerinage, ou alors je veux le faire. entendu, je suis pèlerin. Je suis pèlerin, je suis un fabricant de draps des Pays-Bas et je dis, bah, je vais en Terre Sainte faire mon pèlerinage avec ma femme. Mais les routes ne sont pas sûres quand même. Est-ce que je vais trimballer tout mon argent avec moi
C'est ça.
Quand je vais arriver en Terre Sainte, je vais m'être fait dépouiller, ça va être.
Ça, c'est quand même un point important des Templiers aussi.
Voilà.
C'est clair.
Et le temple dit, bah, déposez votre bien, votre argent dans notre commanderie à Paris, à Londres, au Portugal, à Lisbonne, en Espagne, en Aragon, en Provence. Nous, on fait une lettre, on vous donne cette lettre, et quand vous arrivez dans notre commanderie à Saint-Jean d'Arc, vous retirez votre argent.
C'est les premières lettres de change, quoi.
C'est l'invention de la lettre de change, et ça va être un succès monumental, parce que le fait de ne plus avoir à porter soi-même ses propres biens, donc risquer de se faire dépouiller par les malandrins, les routiers et les larrons, c'est juste formidable quand tu entreprends un voyage. C'est une sécurité extraordinaire. Et si jamais tu décèdes sur la route, bah, l'argent reste au temple.
Voilà, c'est ce que je me disais aussi.
Voilà.
Là, je préparais l'émission, le podcast et je me disais, tiens, quand même, c'est sacrément rusé d'avoir proposé cette sécurité-là aux gens.
Et
en même temps, je dis, bon, ben, si par un malencontreux hasard, on se fait trucider quand même. Bon, ben, ma foi, l'argent reste. C'est aussi ce qui fait la réputation ensuite des Templiers et tout ce mythe et cette légende. Alors, c'est pas qu'un mythe et qu'une légende, hein, puisque du coup, ils sont quand même, enfin, ils traitent de l'argent, ils ont vraiment de la monnaie, mais autour de l'argent et des trésors des Templiers. Voilà, il y a ça aussi, c'est que du coup, ils sont connus pour ça aussi.
Ça, on en parlera après. Effectivement, ils ont dû brasser énormément d'argent. Alors, leur fortune est quand même essentiellement, on l'a dit, constituée de biens.
Terriennes, oui, c'est ça.
Terriens, voilà, de terre et de terrain, de rente, de troupeaux, etc. Mais il y a quand même de l'argent qui circule. Ça, c'est évident. Voilà. Et puis surtout, ils ont un talent. Ils sont extrêmement bons gestionnaires. Quand on leur confie quelque chose, ils le font fructifier x10. Hein. Ils ont vraiment un talent là-dedans. Les commanderies sont là pour en témoigner. Il y en a encore de très, très belles en France qu'on peut visiter. Je pense à la commanderie d'Arville en Normandie et à toutes les commanderies du Larzac Templier que je conseille vraiment de visiter, que ce soit la Couvertoirade ou celle de Sainte-Eulalie de Sermon. C'est juste incroyable, c'est magnifique. Et puis, on voit que c'est extrêmement bien régenté. Il y a vraiment ces quartiers différents, les faubourgs, voilà, c'est très bien fait. Donc, ils ont en plus ce côté de « on sait faire de l'argent avec de l'argent ». Ce qui, là aussi, dans une société purement chrétienne…
Bah, c'est ça. Là, ça pose, aussi, ouais, ça pose aussi quand même problème. Hein.
Ça pose un gros problème. Les seuls usuriers, les seuls qui avaient le droit de faire de l'usure, donc de percevoir des intérêts sur de l'argent purement, normalement, ce sont les Juifs ou les Lombards, les banquiers Lombards. Donc là, il y a vraiment une concurrence en plus qui va se créer par l'ordre du Temple. Ça va satisfaire certains qui vont se dire « bon, bah, plus besoin de faire appel aux Juifs, ouf !» Et puis d'autres qui vont dire « bah non, des chrétiens ne peuvent pas faire ça, quoi. »
Ouais, c'est ça.
C'est pas bien, c'est pas moral, ça va pas. Bon, donc voilà, ça commence
ça commence à chauffer un peu.
À chauffer pour eux, et puis surtout, ils vont se faire des très très gros débiteurs. Ils vont commencer à prêter de l'argent aux puissants, ça… C'est pas non plus une bonne idée.
C'était peut-être une erreur.
C'était certainement une erreur. Et puis bon, ben, en 1187, il y a une bataille qui s'appelle Hattin et c'est un véritable fiasco. Alors, c'est pas la faute des Templiers. Hein. L'avant-garde des Templiers, d'ailleurs, subit d'énormes pertes. Mais nous perdons Jérusalem. Saladin, le grand Saladin, nous prend à revers et voilà, l'étendard franc s'éteint sur Jérusalem et la ville est perdue. Malgré ça, ça ne va pas trop entamer pour le moment la superbe de l'ordre du Temple. Hein. Il continue à grossir et à fructifier. Le centre en Orient devient Saint-Jean d'Acre. Et il y a quand même toujours cette idée de « on peut peut-être reprendre Jérusalem ». Mais ça ne va pas super bien marcher.
On ne reprendra
jamais la ville sainte. Les armées sont trop fortes de l'autre côté chez les Seldjoukides. Et en 1291, ça y est, c'est Saint-Jean d'Acre qui va tomber sous les coups des musulmans. Et là, voilà, là, c'est vraiment la cata. Ils se replient tous en catastrophe sur Chypre, qui est leur dernier bastion en Orient. Et là, voilà, là, ça commence à décliner un petit peu. En tout cas, les États latins d'Orient sont foutus.
Ouais, c'est ça,
C'est
puis ça remet
fini.
en question
On
leur
reprendra
existence
jamais la
pour
Terre sainte.
finir. Oui, c'est ça.
Mais surtout, ça, c'est leur intérêt premier. C'est pour ça qu'ils ont été créés. On l'a
Oui,
dit au
c'est
tout
ça.
début.
C'est que du coup.
Voilà, Hugues de Pin, c'était son premier business. Il devait défendre la Terre sainte et les terres et les routes de Terre sainte.
Donc, s'il n'y
Du
a plus de Terre
moment
sainte,
où il n'y a plus, voilà,
on
comment
est
on
un peu
fait?
mal.
Qu'est-ce qu'on
Bon,
fait? Eh bien,
du
on
coup,
retourne en Europe où on a toutes nos belles commanderies qu'on a bien
bien
établies, qu'on a bien
développé.
fait fructifier, bien développées. Et voilà, on va se replier sur l'Occident maintenant.
Voilà, mais du coup, on va peut-être en traiter dans notre autre épisode. Il y avait juste un point que je me dis qui pourrait être intéressant d'aborder parce que c'est quand même une confusion qu'on fait à fin. Il y avait quand même un autre ordre qui existait à l'époque, l'ordre des hospitaliers. Et c'est vrai que ils coexistaient, ils vivaient en même temps en Terre Sainte, et c'est vrai qu'il peut y avoir confusion entre les deux. Et du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal quand même de faire la distinction entre ces deux ordres. Les hospitaliers existaient déjà avant la création des Templiers. Ils
Les
étaient déjà
hospitaliers,
établis
oui,
en Terre Sainte.
tout à fait. Ils étaient déjà. Alors, l'ordre de Saint-Jean de l'Hôpital, effectivement, il est antérieur à l'ordre du Temple. Et c'est. Alors, lui, il n'a pas du tout de vocation guerrière.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est là,
La grande
parfois, la
différence.
confusion. Ils ont un habit qui est semblable. C'est sûrement pour ça qu'on les confond.
C'est la croix,
Mais.
l'habit noir et la croix blanche.
Ouais, c'est ça. Mais le principe de l'ordre des hospitaliers, comme leur nom l'indique, eh bien, c'est le soin aux belligérants. C'est un peu l'ancêtre de la Croix-Rouge, on dirait
Oui, c'est
aujourd'hui,
ça, il
c'est
crée des
quelque part.
hôpitaux.
Voilà, il crée des hôpitaux, il crée des maladreries, notamment pour les personnes qui sont atteintes de la peste, etc. De la peste, de la lèpre, pardon, pas du tout
Ah
la
mais
peste,
oui.
les lépreux. Donc voilà, vraiment
Des centres de soins,
des
quoi.
centres de soins spécifiques pour ces personnes-là. Et en Terre Sainte, il y a vraiment pas mal de gens qui sont atteints de la lèpre. Donc voilà, c'est vraiment leur première caractéristique. Les hospitaliers vont pas se battre. Les templiers, eux, vraiment, ils sont dans le combat. Ils ont,
Oui, c'est
enfin, c'est
ça.
vraiment leur
Et là,
vocation première, elle est
c'est
là.
ça quelle était la nouveauté, c'est que les Templiers sont vraiment des militaires.
Oui.
Alors que les hospitaliers, eux, s'occupaient plutôt de choses, enfin ouais, d'œuvres charitables, de choses.
C'est ça, exactement.
Oui, c'est
Et
ça.
c'était, alors pour le coup, il me semble, j'ai pas revu, mais il me semble même que vraiment, eux, pour le coup, ce sont presque des moines à part entière.
Ok.
Ils sont pas,
Parce que
voilà.
c'est vrai que moi, bon, avant de me pencher sur le sujet des croisades, c'était quelque chose qui était un peu amalgamé dans ma tête. Enfin, je me disais, voilà, les hospitaliers, les templiers, ok, quelle différence. Je pense que c'était peut-être intéressant de faire ce petit point. Juste de distinction
Oui, c'est
pour les.
intéressant parce que les hospitaliers vont jouer un rôle ensuite. Et il y avait un troisième ordre, alors qui était lui aussi un ordre pour le coup guerrier, mais du Nord, c'était chevalier teutonique.
Les teutoniques.
Voilà, et donc eux, c'était aussi un ordre légèrement différent et par contre aussi de moines guerriers, de soldats plutôt à ce niveau-là. Mais ils étaient vraiment originaires du Nord de l'Europe. Et ils allaient en Terre Sainte, mais c'était pas leur rôle n'était pas forcément de
Oui, c'est
défendre
ce
la
que
Terre
j'allais dire.
Sainte.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Leur vocation, c'était pas, à mon avis, voilà, de défendre justement comme les Templiers, voilà, la Terre Sainte, quoi. Et tout
Voilà, c'était un rôle
le tombeau du Christ
différent.
et tout ça. C'est vrai que du coup, c'était vraiment le rôle des Templiers, quoi.
Eux, c'était plus vraiment un rôle ils recherchaient plus à combattre les hérésies.
Ah oui,
Voilà.
d'accord, je
Ce que
vois.
les Templiers ne feront pas, hein, typiquement dans la croisade contre les Albigeois, les Templiers refuseront toujours de s'engager contre les Cathares parce que ce sont des chrétiens. Donc ils ne vont pas combattre des chrétiens, c'est pas du tout, pour le coup, ce serait contraire totalement à leurs règles.
C'est ça. Comme tu disais, voilà, la guerre juste, c'est tuer l'infidèle, donc
C'est ça.
voilà, mais pas aucun chrétien, même si il est
Hérésie.
taxé d'hérésie, quoi. Même si. Ok, mais tu vois, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on va clôturer là notre premier volet sur les Templiers. On a bien dressé leur portrait.
Je pense, ouais.
Voilà. Et l'origine de leur ordre et leur mission. Maintenant, du coup, on va parler un petit peu du déclin et de la disparition de leur ordre. On se retrouve pour un prochain épisode, du coup.
Ouais, avec plaisir, en tout cas, toujours sur ce sujet qui est passionnant. Moi, je
C'est
trouve, voilà,
passionnant.
les
Ah oui, c'est
Templiers,
passionnant.
c'est vraiment passionnant.
C'est incontournable et c'est tellement, ouais, moi je trouve ça tellement épique que c'est fascinant.
C'est très, très romanesque, quoi.
Voilà. Bon, eh bien, écoute, je te retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode et pour parler de leur fin tragique.
Eh oui.
Allez, à très vite, Anaïs.
Merci Mariella, à bientôt.
À bientôt.
Retrouvez toutes nos actualités en nous rejoignant sur Instagram sur les comptes Mariella Vesco, auteur, et The French Storyteller.